indépendant. Chaque mercredi à 18h et le samedi à 14h sur Radio HDR. Bon voyage.
Echo Out Session sur Radio HDR le vendredi à 23h, on rediff le lundi à 2h.
DJ Aratek.
Echo Session par DJ Aratek.
Retrouvons-nous pour l'Entre-Femmes tous les premiers mercredis du mois de 12h à 13h ou le samedi suivant de 14h à 15h sur Radio HDR 99.1 FM. C'est l'émission Sorore de femmes courageuses qui nous livrent au travers de leurs témoignages leur combat de vie. Parce qu'être une femme, c'est souvent la promesse d'un destin semé d'embûches. Partageons nos expériences afin de se reconnaître, se soutenir, se comprendre lors de notre entretien mensuel de l'Entre-Femmes sur Radio HDR 99.1 FM.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Les droits à la nature, ça consiste à reconnaître des entités naturelles, des fleuves, des rivières, des glaciers, des montagnes, des zones humides ou des espèces animales. Reconnaître des entités naturelles comme des sujets de droit, le droit d'exister, le droit de s'épanouir, le droit à la régénération, de remplir ses fonctions écologiques essentielles, le droit d'agir en justice par l'intermédiaire de représentants. Et à côté de ces droits propres, on va leur reconnaître une personnalité juridique. Ce qui fait que l'entité naturelle va passer d'un statut d'objet d'appropriation à un statut de sujet de droit. Même en l'absence de loi qui reconnaît des droits à des entités naturelles, des juges vont, en partant du droit à un environnement sain, du droit à la culture, du droit à l'eau, en mobilisant des concepts tels que l'ordre public écologique, eh bien, vont en arriver à reconnaître des droits à des fleuves, à des rivières, à des forêts, etc.
Et si les fleuves avaient des droits ? Pas seulement les fleuves. Si les milieux naturels et tous leurs végétaux et animaux étaient considérés comme des sujets de droit, avec reconnaissance de personnalité juridique d'entités non humaines qui pourraient être représentées et défendues dans les tribunaux. Salut les amis, c'est JBD pour Polémique, c'est la voix off.com et pour votre radio libre préférée, les droits de la nature, ou plutôt le droit du vivant, on en parle aujourd'hui avec Marine Izquierdo, avocate en droit de l'environnement et membre de l'association Notre Affaire à Tous. Bonjour Marine.
Bonjour.
Octobre 2025, l'expédition Bateau Labo qui vogue vers le delta du Danube fait escale sur l'île Saint-Denis. La Fillonnerie, chaland de Loire traditionnel en bois, s'amarre à une péniche. Et c'est au cours d'une conférence Bateau Labo qu'on rencontre Marine Izquierdo. Avant de partir sur le droit du vivant, retour sur Notre Affaire à Tous, association de juristes créée en 2015 et qui utilise le droit pour lutter contre la crise environnementale. Décembre 2018, l'affaire du siècle. L'État français est enjoint de respecter ses engagements en faveur de l'environnement et du climat, notamment ceux pris en 2015 sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Après avoir obtenu la condamnation de l'État, Notre Affaire à Tous travaille notamment contre l'inaction des pouvoirs publics et l'impunité des multinationales. Et au moment de cette conversation avec Marine Izquierdo, en cet automne 2025, l'association fête ses 10 années d'existence.
Notre Affaire à Tous a fêté ses 10 ans il y a 2 semaines, puisque c'est une association qui a été créée en 2015 dans le sillage de l'affaire Urgenda aux Pays-Bas. Et donc les fondateurs, fondatrices, s'étaient réunis pour se dire si on faisait une action similaire en France. Donc ils avaient ça comme idée, puis en fait au total il y avait 5 revendications. Donc faire un recours contre l'État pour une action climatique, c'est ce qui a été fait avec l'affaire du siècle, qui a été lancée en 2018. Reconnaître la responsabilité des multinationales. changer la Constitution pour en faire une Constitution écologique, reconnaître le crime d'écocide et reconnaître les droits de la nature.
Et donc il y a un jeu de mots hein, dans notre affaire à tous, finalement c'est notre affaire à tous, il y a aussi le sens juridique, judiciaire d'une affaire, puisque c'est une association dont l'axe de travail est le droit.
Oui, alors c'est une association composée de juristes principalement, donc une association qui œuvre pour la justice climatique, la justice sociale, les droits du vivant et qui utilise le droit comme outil, comme levier d'action au service du vivant.
Trois grands axes de travail, le réchauffement climatique, la biodiversité, la pollution, tout ça étant intrinsèquement mêlé.
Oui, c'est ça. En général, on parle du droit de l'environnement, mais on se rend compte que le climat, c'est un peu un axe à part. Donc il y a tout ce qui est climat, biodiversité, pollution chimique, notamment les PFAS. Donc ça, c'est les grands axes sur lesquels notre affaire à tous intervient. Et sinon, elle intervient via plusieurs axes, je veux dire, d'action. Un axe contentieux, donc ce sont les contentieux contre l'État, contre les multinationales, pour les mettre face à leurs responsabilités. Et puis un axe sensibilisation, éducation, avec la mise en place de boîtes à outils à diffuser dans les collèges, les écoles. Et puis un axe plaidoyer pour faire avancer, évoluer le droit, avec notamment là-dedans tout ce qui est reconnaissance de l'écocide et reconnaissance des droits de la nature.
Des combats environnementaux ou pour la protection du vivant, mais avec cette dimension sociale et donc économique. En fait, c'est à cheval. C'est pas de l'écologie qui flotte dans les limbes comme ça, hors sol. C'est de l'écologie ou en tout cas des conceptions environnementales qui sont ancrées dans ce monde-ci.
Oui, c'est ça. L'idée, c'est de dire que tous les combats sont liés et qu'on ne peut pas œuvrer pour une justice climatique sans prendre en compte la justice sociale. Ce sont des combats qui sont liés, bien sûr.
Et notre affaire à tous, ce sont des gens comme toi, moi, qui financent. Est-ce que l'État vous accorde des subventions pour que vous retrouviez à porter plainte contre lui ?
On n'a pas de subventions publiques de l'État ou des régions. On a tout ce qui est adhésion, mais ce n'est pas ce qui représente la plus grande part de financement. On a des dons aussi, ponctuels. Et puis on a des financements de fonds de dotation, notamment un fonds aux Pays-Bas qui finance tout ce qui est action contre les entreprises. Donc c'est comme ça qu'on s'y retrouve.
Il y a un site qui est très bien fait, hein, Notre Affaire à Tous. Il y a un bilan hein, qui est donné pour chaque année de tout ce que vous avez entrepris. Pour en savoir plus sur Notre Affaire à Tous, il y a tout sur Internet. L'affaire du siècle, c'était quoi déjà ?
L'affaire du siècle, c'est un recours contre l'État français pour inaction climatique qui a été lancé en 2018. Donc c'est porté par Notre Affaire à Tous, Greenpeace France, Oxfam et la FNH, la Fondation pour la Nature et l'Homme ou Fondation Nicolas Hulot. L'Affaire du siècle, c'est le nom du collectif qui regroupe ces quatre associations et c'est aussi le nom qu'on a donné à ce recours. Donc en 2018, on a déposé ce qu'on appelle une demande préalable au gouvernement qui n'a pas répondu positivement à notre demande. Donc après, 2 mois après, on a lancé ce recours devant le tribunal administratif de Paris qui nous a donné raison en 2021.
Est-ce que l'État français ne respecte pas des engagements pris ?
C'est ça. L'idée, c'était de montrer la carence fautive de l'État français dans le respect des objectifs climatiques qu'il s'était lui-même fixés. Et ça découle de normes internationales, notamment l'accord de Paris, signé en 2015, de normes européennes, notamment tout ce qui est Green Deal, et puis aussi de normes nationales, avec notamment la SNBC, la Stratégie Nationale Bas Carbone, qui est en gros la feuille de route climatique du gouvernement pour le climat, donc pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et donc on a démontré que tout ça n'avait pas été respecté, et que c'est pour ça qu'il y avait eu un dépassement du premier budget carbone 2015-2018.
Catastrophe climatique écologique mondiale, depuis des années, l'alerte est sonnée à chaque COP. Et depuis des années, des États, ceux qui ne sont pas climato-sceptiques, font de grandes promesses qui n'engagent que qui les écoute. En 2010, la chanson du dimanche brocardait déjà la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.
3, 4, convoqué à Copenhague pour couper court au CO. Un cortège de comptables qu'on vola en hélico et de colloques en conférence. Oh, convaincu d'un combat écolo. Oh, un vieux coq coiffé comme une offense. Oh, chanté comme un con cocorico. Confortant leur conquête.
Sanction et compagnie, Cossière dans connivence, un contrat court et concis, et de consensus en complaisance, wow, et de conspirations en complot, wow, le vieux coq corrompu comme la France, wow, Cossignade un grand cocorico. Sens en contradiction, wow, consignant dans un coin leur conscience, wow, les yeux cons nous prennent pour des cons, de leur côté coquillage, cochon d'un et cormoran, se confère du courage, le corail est encore blanc, comment croire au commerce équitable, wow, sans confetti et sans colorant, wow, en conviant le contribuable, oh, à consommer continuellement.
La chanson du dimanche en 2010 lors de la convention de Stockholm où des États ont pris de grands engagements sur les polluants organiques persistants parce qu'il n'y a pas que les polluants éternels dans la vie. Vous savez, les PFAS. On en revient à notre affaire à tous avec Marine Izquierdo, avocate en droit de l'environnement.
Comment croire au commerce équitable, oh, oh, sans confetti et sans colorant, oh, tout en conviant le contribuable, oh, à consommer continuellement.
Tu as toujours travaillé avec Notre Affaire à Tous ?
Alors moi, j'ai rejoint Notre Affaire à Tous en 2018, puisqu'en fait, je venais de rentrer de 3 années à Londres où j'avais étudié puis travaillé. J'avais intégré un cabinet d'avocats anglo-saxon. Je cherchais en fait à m'investir plus dans le domaine en droit de l'environnement. Et puis, à l'été 2018, tombe le rapport du GIEC et puis dans la foulée, la démission de Nicolas Hulot. Et là, à l'époque, en septembre, un citoyen lambda, comme ça, lance une grande marche pour le climat en réaction à la démission de Nicolas Hulot. Puis en fait, ça a pris petit à petit, on utilisait beaucoup Facebook à l'époque. Et donc, plusieurs grandes marches pour le climat ont été organisées comme ça dans toute la France. J'ai participé. Et puis, il y a une espèce vraiment d'effervescence. Et toutes les personnes qui avaient marché, c'était en septembre 2018, se sont dit, bah, on n'en reste pas là, qu'est-ce qu'on fait maintenant, c'est quoi la suite? Et donc, ce collectif a commencé à se structurer petit à petit. Je me suis proposée pour être à la fois juriste bénévole au sein de ce collectif, pour aider notamment à tout ce qui est déclaration de manifestation, rédaction d'une charte au sein de ce collectif, et puis aussi pour aider à la modération, pour filtrer les messages qui arrivaient, les commentaires qu'il y avait. Et en étant modératrice, je voyais souvent le nom de Notre Affaire à Tous qui revenait. J'étais déjà concernée par tous ces enjeux, mais je connaissais des grandes associations comme Greenpeace, comme Oxfam, mais je n'avais jamais entendu parler de Notre Affaire à Tous. Et je me suis dit, tiens, mais c'est quoi cette association? Donc je suis allée voir en ligne, et là je vois ce qu'ils font, je me dis, mais ça a l'air super, une association de juristes qui utilisent le droit au service de la nature. Je les contacte, je leur écris comme ça. C'était en octobre 2018 quand je les ai contactés, c'était juste avant le lancement de l'affaire du siècle, et donc c'était encore une toute petite asso. Composé d'une dizaine de bénévoles, juristes comme ça, pas du tout structurés. Bah, je les ai rencontrés. À l'époque, c'était Marie Toussaint, la présidente, qui maintenant est eurodéputée. Et donc, on m'a dit, ah bah là, on a besoin de forces bénévoles sur le groupe de travail Notre Constitution écologique, puisqu'à l'époque, une révision de la Constitution était en cours. Donc, je me suis occupée de ça. Et puis après, il y a eu les droits de la nature. Il n'y avait pas encore de groupe droits de la nature à proprement parler. Mais Marie Toussaint, c'était une volonté, je l'ai dit au début, de travailler sur cet axe-là. Donc avec un autre bénévole, Samy Hamel, on a créé ce groupe droits de la nature. Et puis on a commencé à se renseigner, à s'informer, nous, puisque avant d'intégrer Notre Affaire à Tous, je n'avais jamais entendu parler des droits de la nature. Et donc on s'est dit, bah, on va déjà regarder ce qui se fait dans le monde pour se former nous en interne. Et donc on a commencé comme ça à analyser tous les cas de constitution, de loi, de décision de justice. Et puis on s'est dit, bah, on ne va pas juste garder ça pour nous en interne dans le drive, ce serait bien d'en faire quelque chose parce que ça représentait quand même tout un travail qui s'est étalé sur 2 ans. Et donc après, on en a fait un ouvrage que j'ai coordonné, qui a été publié en 2022, qui s'appelle « Les droits de la nature vers un nouveau paradigme de protection du vivant ». Et puis en parallèle, quelqu'un voit un article d'un projet Parlement de Loire. Là, c'était au printemps 2019, et on se dit, ah bah tiens, si on les contactait, parce que ça résonne avec ce qu'on fait, justement, ce qu'on voudrait faire sur les droits de la nature. Donc je me souviens avoir écrit au Polo, et il me semble que c'est Camille de Toledo qui m'avait répondu à l'époque, et qui m'a dit, ah oui, j'ai entendu parler de vous, avec Valérie Cabanès, qui à l'époque était présidente d'honneur de Notre Affaire à Tous, on aimerait bien vous auditionner. Et donc c'est comme ça que le lien s'est fait, qu'on a assisté ensuite à toutes les auditions du Parlement de Loire. Et après, Camille nous a demandé, le groupe de bénévoles qui travaillons là-dessus, si on pouvait l'aider dans le cadre du livre Le fleuve qu'il voulait écrire. Il avait besoin en fait qu'on fasse toutes les notes de bas de page juridiques, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne auditionnée faisait référence au droit de la nature et que ça nous faisait penser à un procès, un article, un livre, quelque chose, bah, il y avait ces notes de bas de page, ce que Camille de Toledo appelle l'appareil critique du livre. Et donc là a été publié Le fleuve qu'il voulait écrire. Et après, dans la foulée, nous, en 2022, on a publié donc le livre de Notre Affaire à Tous. Et Camille de Toledo dit souvent que c'est le petit frère du fleuve qui voulait écrire. Parce que pendant qu'on faisait les notes de bas de page pour le livre de Camille de Toledo, nous, on préparait le livre. Donc ça alimentait les notes de bas de page. Et ensuite, une fois que le fleuve qui voulait écrire a été publié, on s'est inspiré des auditions qui étaient retranscrites dedans pour rédiger le livre de Notre Affaire à Tous. Donc ça s'est nourri mutuellement.
Qu'est-ce qu'on appelle exactement les droits de la nature ? Est-ce que même le mot nature n'est pas un peu problématique ? Est-ce qu'on pourrait pas plutôt parler de vivant ?
Que ce soit droit de la nature ou droit du vivant, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on entend par là ? En fait, les droits de la nature, ça consiste à reconnaître des entités naturelles, que ce soit des fleuves, des rivières, des glaciers, des montagnes, des zones humides ou des espèces animales. Donc, reconnaître des entités naturelles comme des sujets de droit. Et avec des droits propres, des droits fondamentaux, par exemple le droit d'exister, le droit de s'épanouir, le droit à la régénération, le droit de remplir ses fonctions écologiques essentielles, le droit d'agir en justice par l'intermédiaire de représentants. Et à côté de ces droits propres, on va leur reconnaître une personnalité juridique. Ce qui fait que l'entité naturelle va passer d'un statut d'objet d'appropriation à un statut de sujet de droit. Dans notre droit, il y a deux catégories principales, les choses et les personnes. Ou les objets et les sujets de droit.
C'est un héritage romain, ça, non ?
Voilà. Et donc, l'idée, c'est que si on reconnaît des arbres ou une rivière sujet de droit, c'est que ce ne soit plus des objets au sens juridique, mais donc des personnes dotées de droits propres. Alors maintenant, il y a quand même un débat entre juristes qui existe, que je dois mentionner. C'est certains se disent, bah, pourquoi pas ne reconnaître des droits, mais sans personnalité juridique. C'est-à-dire que l'entité naturelle serait dotée de droits, mais ça ne serait pas pour autant une personne au sens juridique, ce serait un bien commun environnemental. Et ça, c'est notamment une approche portée par le juriste professeur de droit Alexandre Zabalza, qui a fait ça pour la vallée du Siron à côté de Bordeaux. Donc ils ont reconnu des droits à la vallée du Siron par des citoyens, des associations, mais ça reste un bien commun environnemental. Donc voilà ce qu'on entend par droit de la nature. Après, la nature, c'est très vaste, qu'est-ce qu'on met dedans ? Si on suit Philippe Descola, la nature, ça n'existe pas. Qu'on parle de nature, de vivant ou d'environnement, par définition, c'est ce qui est extérieur à nous. Or, nous faisons partie de la nature, nous sommes la nature. Mais bon, nous, dans nos conceptions occidentales, il faut bien avoir une expression qui parle, donc les droits de la nature. Et si on voulait être précis, comme dirait Marie-Angèle Hermite, il faut plutôt parler de droits des entités naturelles. Parce que la nature, encore une fois, c'est très vaste. En Équateur, donc, ce sont les droits de la nature en général qui ont été reconnus dans la Constitution. Donc on voit que maintenant, ce sont les juges qui sont chargés de préciser la portée de ces droits de la nature. Qu'est-ce qu'on met là-dedans ? Est-ce que ça concerne toute la nature ou est-ce que c'est certains écosystèmes ? Est-ce que les espèces animales aussi sont incluses dedans ? Et donc ça, on a des arrêts de la Cour constitutionnelle équatorienne qui viennent préciser l'application et la portée de ces droits de la nature.
Selon les civilisations, les coins du monde, on n'a pas le même rapport avec le milieu naturel. Je reviens de ce que j'ai compris au Whanganui en Nouvelle-Zélande. Les gens, les humains qui vivent là-bas, la rivière fait partie de leur famille, fait partie d'eux. Ils vivent en symbiose avec la rivière, ils s'en nourrissent. Moi, quand je pense à mon rapport avec la Loire, si ce n'est que j'en suis constitué environ à 70% grâce à l'eau qui sort de mon robinet, grâce à la station d'épuration, c'est jusqu'à peu, c'était à peu près le seul rapport que j'avais. D'ailleurs, je crois que c'est... Bruno Latour qui avait posé la question au Parlement de Loire. Y a-t-il un peuple de Loire, comme on parle de peuple Wanganui? Donc y a-t-il un peuple de Loire?
Alors, ça a été la critique de certains de dire les droits de la nature, déjà la philosophie des droits de la nature nous vient des cosmovisions ancestrales andines des peuples autochtones. Et c'est vrai que eux là-bas, ils vivent déjà en symbiose avec la nature. Ils n'ont pas besoin de reconnaître les droits de la nature puisque ça fait partie de leur philosophie de vie. Sauf que nous, on n'a pas cette philosophie de vie et donc on a besoin de le retranscrire juridiquement quelque part et donc on en vient au droit de la nature. Alors après, effectivement, il y a eu parfois des critiques de certains qui disaient « mais ça ne fait pas sens chez nous puisqu'on n'a pas de peuple autochtone en France, en Europe, on n'a pas de peuple autochtone qui vivent le long de Loire, le long de la Seine, etc. » Sauf qu'on a quand même eu un exemple récemment en Espagne, pays européen, qui a la même tradition juridique que nous en France, qui a adopté une loi en 2022 qui reconnaît la lagune Mar Menor comme sujet de droit doté d'une personnalité juridique. Donc on voit bien que ces critiques ne tiennent pas, que c'est possible de le faire. L'Espagne a ouvert la voie en Europe.
Je relevais là tout à l'heure que l'héritage humain et choses, on en héritait des Romains. Je crois que cette conception du droit aussi implique que le propriétaire de la chose peut en faire ce qu'il veut, donc éventuellement la détruire aussi.
Oui, en fait, les droits de la nature, c'est aussi l'idée de dire que c'est toutes ces choses, toutes ces entités naturelles, ces écosystèmes qu'on considère comme des choses, ne soient plus soumises aux droits de propriété. L'idée avec les droits de la nature, c'est aussi de faire en sorte que ces écosystèmes qui vont passer du statut de chose à celui de personne ne soient plus soumises aux droits de propriété des humains. Parce qu'aujourd'hui, on a une conception assez utilitariste de la nature qu'on peut exploiter librement pour nos propres besoins. Et donc là, si on les fait passer à un statut de personne, ça changera la donne. On ne pourra plus les exploiter comme ça, comme on le fait actuellement.
En se penchant sur le juridique et en réfléchissant au droit, on est obligé de faire de la philo en fait, et de changer aussi par ce prisme, par ces outils juridiques, notre rapport au vivant, au reste du vivant et aux autres. Donc le droit, c'est philosophique aussi.
Effectivement, quand on parle de droit à la nature, il n'y a pas qu'un intérêt sur le plan juridique, mais il y a aussi des intérêts sur le plan philosophique, sur le plan éthique, même sur le plan démocratique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de penser global et pas seulement juridique. Donc l'intérêt sur le plan juridique, ça va être de mettre en balance des intérêts opposés, les intérêts de l'entité naturelle et par exemple le droit de propriété ou la liberté d'entreprendre. On a des exemples intéressants comme ça qui nous viennent d'Équateur, de la Cour constitutionnelle équatorienne, qui par exemple a fait prévaloir les droits de la nature sur le droit de propriété d'un exploitant d'une ferme de crevettes qui était installée dans une mangrove. On a aussi des exemples où, par exemple, la réserve naturelle de Los Cedros, où il y avait deux concessions minières qui avaient été octroyées, qui recouvraient les deux tiers de la réserve naturelle de Los Cedros. Et bien pareil, en mobilisant l'argumentaire des droits de la nature, en plus du droit de l'environnement, et bien le juge constitutionnel a annulé ces concessions minières au nom des droits de la forêt de Los Cedros. Et ça concerne des entités naturelles, mais ça peut aussi concerner des cycles naturels, comme le cycle du carbone, comme les vagues. Il y a une municipalité au Brésil qui a reconnu les vagues comme sujet de droit. Ouais. Donc ça, c'est l'intérêt sur le plan juridique. Maintenant, sur le plan philosophique, éthique, je pense qu'on l'a un peu abordé, mais ça va être de changer notre rapport au vivant, le regard qu'on porte sur ces écosystèmes, ne plus les contempler comme des objets d'appropriation mais comme des sujets de droit, et donc élargir la considération morale à des non-humains. Sur le plan démocratique, ça va être de mettre en place ce que Loïc Blondiot appelle la démocratie du vivant, donc comment on repense nos instances de gouvernance pour y intégrer les voies de la nature. Et puis sur le plan culturel, en fait il y a une attente de la société, on voit que les droits de la nature prennent de plus en plus. Et donc cette attente fait qu'on peut transformer le droit. Mais aussi, le fait de transformer notre droit, ça influe sur les comportements des humains, des comportements en société. C'est dans les deux sens.
Et nous amener peut-être à, avec cette pensée absurde, qu'on serait au sommet d'une pyramide et que tout ce qui vit en dessous de nous nous est assujetti et qu'on peut en faire ce qu'on veut. Prendre conscience qu'on fait partie d'un grand tout, sans vouloir verser dans l'ésotérisme bon marché.
C'est ça, pour compléter sur l'aspect éthique, c'est passer de l'anthropocentrisme à l'écocentrisme. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, se décentrer. Arrêter de croire qu'on est au-dessus de la pyramide du vivant, que l'homme est le centre du monde et qu'en fait on fait partie d'une communauté biotique et que tout ça est interdépendant.
En attendant des juristes qui parlent pour les droits du vivant non humain, cela fait déjà des millénaires que l'eau, par exemple, a des artistes qui chantent pour elle.
L'eau, 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 c'est l'eau qui grogne après moi, océan qui
L'océan qui gronde, extrait du disque L'eau qui mord. Avant de retrouver Marine Iscardo, avocate en droit de l'environnement et membre de Notre Affaire à tous, association de juristes qui travaille aussi sur le droit du vivant. Alors, vous aurez peut-être entendu parler de la rivière Whanganui, à laquelle le Parlement de Nouvelle-Zélande a reconnu sa personnalité juridique. Affaire qui a fait tache d'huile un peu partout dans le monde, comme par exemple en région centre avec le Parlement de Loire, pour que la Loire, ou que Loire, ait les mêmes droits qu'une personne. Notre affaire à tous, c'est donc défendre le droit et aussi proposer des droits.
Oui, effectivement, on défend avec Notre Affaire à tous le droit de l'environnement, son application et son renforcement. Et à côté de ça, on propose aussi un nouveau droit, avec notamment le crime d'écocide et les droits de la nature. Et donc on en vient au droit de la nature qui, effectivement, pour répondre à ta question, existe déjà dans certains pays, pas encore en France, mais c'est pour ça qu'on fait tout ce plaidoyer pour les voir reconnaître. Et tu citais l'exemple de Whanganui. Alors pour les Maoris, Whanganui est féminin, donc on dit la rivière et non pas le fleuve. Donc la rivière Whanganui, qui a été reconnue comme sujet de droit doté d'une personnalité juridique par une loi votée par le Parlement en 2017. On a aussi tout un mouvement qui existe aux États-Unis avec des municipalités qui vont amender leur charte municipale pour y reconnaître des droits aux communautés naturelles, donc aux écosystèmes. On a l'Équateur qui a modifié sa constitution en 2008 pour y intégrer les droits de la terre-mère, de la Pachamama. Puis voilà, aujourd'hui on a une vingtaine de pays qui ont fait ça, aussi via des décisions de justice. C'est-à-dire que même en l'absence de loi qui reconnaît des droits à des entités naturelles, eh bien des juges vont dans leur argumentaire en partant du droit à un environnement sain, du droit à la culture, du droit à l'eau, en mobilisant des concepts tels que l'ordre public écologique, eh bien vont en arriver à reconnaître des droits à des fleuves, à des rivières, à des forêts, comme c'est le cas en Colombie, comme ça a été le cas au Pakistan pour l'éléphant cavane, etc.
En ce qui concerne le Parlement de Loire, l'un des objectifs serait de doter le fleuve Loire, et donc tout ce qui y vit, d'une personnalité juridique.
Oui, c'est ça. Donc Parlement de Loire, pour moi, c'est le projet pionnier en France qui a été initié en 2019 par le POLO, le Pôle Art et Urbanisme de Saint-Pierre-des-Corps à côté de Tours, et l'écrivain Caïm de Toledo. Et donc, ça a consisté en des auditions. Donc ils ont auditionné des juristes, des philosophes, des naturalistes, des écologues, des anthropologues pour imaginer, on est dans une fiction, imaginer reconnaître le fleuve Loire comme sujet de droit doté d'une personnalité juridique. Et donc à l'issue de ces auditions qui se sont étalées sur 2 ans puisqu'entre temps il y a le Covid, ça a été mis en scène, donc retranscrit dans le livre Le fleuve qui voulait écrire. Et puis ensuite, ça s'est structuré en un collectif qui s'appelle Vers un Parlement de Loire et qui maintenant ambitionne toujours